Bonjour chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à voyager à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu vous parler d'abord de celui qui eut un chemin tout à fait extraordinaire, puisqu'il fut choisi par Jésus-Christ ressuscité pour annoncer la foi en monde païen, c'est-à-dire Paul de Tarse, Saint Paul. Alors, nous nous étions arrêtés lors de la dernière émission sur la conversion de Saint Paul, ce qu'on appelle la conversion, en tout cas la reconnaissance du Christ ressuscité, qui a saisi Paul, il faut bien le dire, malgré lui. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs, pourquoi Jésus a-t-il pris l'initiative de retourner cet homme qui était finalement un juif un peu persécuteur des premiers chrétiens? Est-ce qu'il a fait ça par hasard? Évidemment, non. C'est un choix du Christ pour cet homme qui devait avoir un intérêt au moins pour l'évangélisation future. Et surtout au niveau personnalité, moi ce qui me frappe, c'est à quel point Saint Paul est différent de Jésus, différent et complémentaire. Parce que quand même, Saint Paul, c'est un intellectuel érudit, un peu fanatique, alors que Jésus est un Galiléen d'un judaïsme simple, et pragmatique surtout, plutôt axé sur la relation d'amour avec les gens et la thérapie et les miracles. Donc on se dit, pourquoi a-t-il choisi Saint Paul? Évidemment pour le convertir, mais pourquoi pas tout le monde? Donc si on a choisi Saint Paul, c'est qu'il avait vraiment une utilité. Et je pense que, je ne suis pas la seule à le penser, mais un des axes où il est vraiment utile, c'est qu'il est multiculturel. Saint Paul, donc, je vous ai dit, il est à la fois juif, comme il le dit lui-même, de stricte observance, donc connaissant évidemment l'hébreu, langue sacrée, et l'araméen, langue quotidienne, mais il est aussi juif de la diaspora, donc de culture grecque prédominante. Et évidemment, il parle le grec plus que couramment, puisqu'il a écrit ses lettres en grec, il lisait la Bible en grec, et c'est pas tout, il est citoyen romain, donc bien inculturé dans le monde latin, il parlait évidemment latin, et comme on le sait, les juifs de la diaspora étaient plutôt en bonne entente avec Rome, ce qui n'est pas le cas justement de Jésus à Jérusalem. Donc on se dit qu'il y a un plan de Dieu derrière le choix de cet homme qui a ses entrées un peu partout dans le monde méditerranéen de l'époque. En plus, il est commerçant, donc il a des relations partout. Alors, quel est ce monde méditerranéen à cette époque-là? On s'imagine souvent que les Romains sont des cruels barbares, et pas du tout, évidemment. On est dans une époque de Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Après la conquête et le changement de civilisation, en imposant quand même la langue et la civilisation latine, ils n'ont pas écrasé les peuples qu'ils avaient annexés, disons. L'ordre romain préserve la diversité locale, jusqu'à même préserver les religions particulières, les droits spécifiques des communautés, jusqu'à même laisser des monnaies locales. C'est-à-dire que l'ordre et la paix romaine, on appelle ça une mosaïque administrative. Ils sont capables de gérer des territoires énormes, mais sans totalitarisme, sans unification, outre mesure. Alors, je vais vous lire une citation d'un historien célèbre pour sa connaissance des origines du christianisme, Maurice Sartre, pas Jean-Paul, hein, Maurice. Le monde de Paul, dit-il, à l'image de l'ensemble de l'Empire romain, est à la fois un, double et multiple. Un, parce qu'il est tout entier dans la dépendance politique de Rome, mais double en matière culturelle et linguistique, puisque le grec jouit du statut de langue officielle à égalité avec le latin. Là, c'est moi qui ajoute, la culture grecque est toujours en usage, avec tout ce qu'elle a laissé comme intérêt, c'est-à-dire les arts, les sports, vous savez, les jeux, les compétitions, etc. Et donc, ajoute Maurice Sartre, multiple, car les langues locales sont aussi préservées. L'araméen constitue la principale langue de communication autour du bassin méditerranéen vers la Syrie, mais aussi l'hébreu est conservé en Judée, et puis donc aussi toutes les langues locales dans les provinces, le galate, le thrace, le lycaonien, etc. Et ça jusqu'à la fin de l'Empire romain. Donc je dirais que c'est une occupation assez confortable, le monde dans lequel va évoluer saint Paul. Il ne faut pas tout le temps se battre, surtout pas lui qui est citoyen romain. Alors, à partir de là, je vous rappelle donc que saint Paul a été converti assez brutalement, puisqu'il a perdu la vue, puis il a été guéri par un certain Ananias qui lui a imposé les mains et lui a donc communiqué l'Esprit Saint. Hein, afin que tu retrouves la vue, dit les Actes des Apôtres, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Alors, une fois qu'il a reçu l'Esprit Saint, je vous lis quand même ce que Jésus lui-même dit à Ananias, donc celui qui baptise saint Paul. Le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Voilà, donc, les Actes des Apôtres, on est dans le chapitre 9, nous présentent vraiment Jésus à l'origine non seulement du choix de Paul, mais de tout ce qui va le conduire sur le chemin de l'évangélisation des païens. Et on le voit dans les Actes et même dans les lettres de Paul, effectivement, Jésus va apparaître souvent à Paul et souvent, en tout cas aussi, lui communiquer des instructions par l'Esprit Saint. C'est pas un saint Paul de son initiative, c'est saint Paul relié en permanence à Jésus qu'il a choisi. Alors, je vous lis quelques lignes des Actes des Apôtres ensuite. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et il ne tarda pas à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, ça, il a beau se réserver une place pour les païens, il va quand même toujours en priorité aller enseigner dans les synagogues. Ben, c'est ça qu'il connaît, et puis ça n'a de sens finalement d'évangéliser dans les premiers temps qu'en annonçant que le Messie qui était attendu est arrivé. La base de l'évangélisation, la base de la mission, c'est de dire « ce que vous attendiez est là ». Alors, dans les synagogues, il n'y a pas que des juifs pratiquants, si je peux dire. Il y a toute cette frange de ceux qu'on appelle les craignants Dieu. Il faut se dire qu'à cette époque, il y avait une insatisfaction dans le monde païen. Tous les dieux, dont je ne vais pas vous citer les noms, mais les dieux grecs et tout le panthéon grec et le panthéon latin, ne sont pas des dieux fort sympathiques dans leur relation avec les humains, vous savez. Et les chercheurs ont montré qu'il y avait une attente d'autre chose. Il y avait dans l'air une espérance qui faisait que le judaïsme avait un attrait. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais quel est le Dieu des Juifs? Et c'est pas forcément pour se convertir, mais pour s'intéresser à ce Dieu-là. Et curieusement, ce qui va marquer saint Paul, et peut-être que ça nous aidera à le voir un peu différemment, c'était surtout les femmes qui étaient attirées par le Dieu d'Israël. Alors, évidemment, dans les synagogues, quand Paul va prêcher, il va s'intéresser d'abord à ces craignants Dieu. Ils sont tout prêts, intérieurement, à recevoir l'information et la bonne nouvelle, comme on dit. Parce qu'ils ont cette attente en eux. Donc, ne pas s'étonner que toujours Paul aille d'abord vers les synagogues. Alors évidemment, ça ne se passe pas toujours très bien. Le texte des Actes des Apôtres continue en disant, n'est-ce pas, lui qui à Jérusalem s'acharnait contre les chrétiens pour les conduire enchaînés au grand prêtre. Mais Saoul, il s'appelle pas encore Paul, Saoul s'affirmait d'autant plus et il confondait les habitants juifs de Damas en prouvant que Jésus était bien le Messie. Alors le texte biblique nous dit, en prouvant que Jésus était bien le Messie, comment peut-on prouver que Jésus est bien le Messie? Alors deux axes évidemment dans la vie de saint Paul. D'abord sa propre expérience, ce qui lui est arrivé, il le raconte plusieurs fois. Et vous vous souvenez, les récits sont assez divers d'ailleurs, il le raconte plusieurs fois, mais c'est jamais la même version, il y a des variantes, mais bon, c'est pas grave, grosso modo, on reconnaît. Mais l'autre axe principal de la preuve, c'est quand même selon les Écritures. Tant qu'il est dans les synagogues, il faut se servir de la grande érudition de Paul pour prouver aux gens que l'accomplissement des Écritures, il faut qu'ils comprennent bien ce que les textes voulaient dire. Et sur ce plan-là, c'est pas si facile que ça. Jusqu'à aujourd'hui, on peut lire le même texte et le comprendre très différemment en monde juif ou en monde chrétien. Donc, ça va toujours faire des divisions, mais prouver que Jésus est bien le Messie, il faut quand même s'appuyer sur ce qu'annonçaient les Écritures et les prophètes. Vous savez bien, on le chante à Noël. Depuis plus de 4000 ans, nous annonçaient les prophètes. Voilà. Alors, après ça, il y a un petit creux où on ne sait pas très bien, après Damas, là. Il faut dire que dans une épître, il dit au contraire qu'il s'est retiré pendant plusieurs années avant d'aller à Jérusalem. Alors, on a un trou de 3 ans dont on ne sait pas ce qu'il a fait et où les suppositions vont bon train. Certaines suppositions sont assez intéressantes. D'ailleurs, sur ce trou dans la chronologie, 3 ans... Certains disent il est allé d'abord, puisqu'il était dans le coin, chez les Esséniens. Il a fait, comme on dirait aujourd'hui, une retraite. Alors, pourquoi dit-on ça? C'est pas tout à fait faux. Il y a quand même une parenté entre la fondation des églises et l'espèce d'organisation qu'il a peut-être été expérimentée chez les Esséniens. Les Esséniens, vous savez, ce sont des Juifs mystiques, extrêmement rigoureux et peut-être même excessivement rigoureux dans leur approche du judaïsme. Ils se voulaient parfaits dès ce monde-ci. Alors ça donne un peu des extrémismes, mais c'est pas impossible que saint Paul ait été apprendre quelque chose du côté des mystiques, parce que lui-même est quand même... Est-ce qu'il était, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est devenu quelqu'un d'extrêmement mystique. Qu'est-ce qu'un mystique? C'est quelqu'un qui communique avec l'invisible, quelqu'un qui reçoit ses instructions du ciel en direct, quelqu'un qui a des visions, quelqu'un qui a une compréhension, une pré-compréhension de l'avenir, qui lui donne une audace incroyable. Mais ici, chez Saint Paul, une audace, pas de création locale, mais de voyage. Alors, à partir de là, ces 3 ans, il va donc monter à Jérusalem, comme on dit, bien que de Damas, ça descend, hein, on est d'accord, mais ça monte peut-être en altitude. Jérusalem est sur une petite butte, mais on monte toujours à la capitale. Arrivé à Jérusalem, il essaye, comme dit le texte des Actes des Apôtres, il essaye de s'agréger aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, n'arrivant pas à le croire vraiment disciple. Parce qu'effectivement, il a beau raconter tout ce qui lui est arrivé, on n'est pas obligé de le croire, et on a aussi d'autres bruits qui circulent, hein, tous les massacres qu'il a, même pas fait lui-même, au moins soutenu. Donc en fait, ça c'est une manière de fonctionnement assez typique de l'époque. Pour arriver dans une communauté, quelle qu'elle soit, il faut un parrainage. Alors, il faut vous dire que c'est... Il n'y avait pas la même capacité d'avoir des preuves comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas les films. Et surtout, il n'y avait même pas de carte d'identité. C'est-à-dire que les gens avaient forcément une carte d'identité. Par exemple, Saint-Paul, il était forcément quelque part répertorié dans une mairie quelconque à Rome ou je ne sais où, comme citoyen romain. On pense que oui, mais répertorié, ça veut dire graver une énorme tablette en pierre où il est nommé dessus. Et bien évidemment, il n'a pas une tablette sur lui avec, pour prouver ses papiers d'identité. Donc partout où on va, pour attester de qui on est, on doit... ou bien arriver avec quelqu'un qui témoigne pour vous, quelqu'un qui déjà est bien connu et à qui on fait confiance, ou bien arriver à trouver quelqu'un dans la région où on arrive, qui a eu des informations auxquelles on peut faire confiance. Voilà. Et c'est ce qui va se passer quand il arrive à Jérusalem. C'est un certain Barnabé ou Barnabas, Barnabé qui le prit alors avec lui et l'introduisit auprès des apôtres. Et il raconta comment, effectivement, sur la route, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé après, au nom de Jésus, commencer à témoigner. Donc, voilà, Saint Paul est plutôt introduit par Barnabé. Ce qui fait qu'il est plus ou moins bien accueilli maintenant dans Jérusalem et commence à annoncer le Christ, Messie, Jésus. Mais il n'a pas partout un bon accueil. Il ne faut pas imaginer qu'une aura comme la sienne ouvre toutes les portes avec un grand sourire. Hein. Même au niveau de ce qu'on appelle les frères, c'est-à-dire les premiers chrétiens, parce qu'il y a des dissensions dès l'origine parmi les chrétiens. Mettez-vous dans l'époque, vous avez des chrétiens d'origine juive. Et dans les chrétiens d'origine juive, il y a ceux qui sont d'origine juive en Israël, les juifs, hébreux, araméens, mais des chrétiens d'origine juive, diaspora, avec une dominante grecque, gréco-latine même parfois. Donc c'est déjà deux types de judéo-chrétiens. Puis vous avez les pagano-chrétiens, ceux qui viennent du paganisme. Donc c'est déjà 3 manières de recevoir saint Paul. Et saint Paul lui-même, il est un peu ambigu, parce qu'il se dit juif d'origine, juif de stricte observance, mais il est un juif grec de la diaspora. Alors, sur quel tableau va-t-il jouer ? Ben, en fait, il va jouer toujours sur tous les tableaux. Sans vergogne, je dirais que sa tactique, c'est de s'adapter à l'interlocuteur. Tout ce qu'il a en lui comme expérience va servir à convaincre l'autre. Mais ça ne va pas marcher à tous les coups. Certainement, là on voit qu'à Jérusalem, il a plutôt une hostilité de ceux qu'on appelle les hellénistes. C'est-à-dire, on lui reproche, je ne sais pas, peut-être d'être trop juif d'origine. Voilà. La bisbille, comme on dit, il y en a toujours eu. Hein. Alors, mais il y a une paix générale, et il faut se dire, je cite un des auteurs qui me sert de référence, l'Esprit Saint, dans tous ces conflits, arrivait à faire quand même que l'Église restait unie. Et je crois que c'est un peu consolant pour aujourd'hui, c'est-à-dire même là où il y a des oppositions, des conflits, des divergences, il faut s'appuyer sur l'Esprit Saint. Parce que l'unité du Saint-Esprit, elle est là depuis l'origine pour colmater les brèches, refaire des ponts là où on en a besoin. Alors, où va aller Saint Paul ensuite ? De Jérusalem, il va remonter sur Césarée, Tarse et Antioche. Antioche qui sera la grande ville de Syrie, qui va servir de base aux premières missions. Mais il n'y va pas tout seul, il est toujours, en fait, l'apprenti apôtre de Barnabé. C'est Barnabé qui est envoyé. Et saint Paul, avec énormément d'humilité, va être le second de Barnabé pendant des années. Ce que je trouve absolument formidable. Enfin, il pourrait se pousser du col, mais pas du tout. Il apprend le métier avec Barnabé, au début. Hein. Alors, la fondation de l'église d'Antioche, je vous lis dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. Donc au départ, c'est toujours pareil, on vise les Juifs. Pourtant, lorsque certains d'entre eux, originaires de Chypre, de Cyrène, arrivèrent à Antioche, ils s'adressèrent aussi aux Grecs. Voilà, le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur. Et là, comme ça, la communauté s'agrège à la communauté des gens de toutes origines, avec toujours une priorité aux juifs, et puis aux juifs grecs, et puis aux païens. D'accord. Oui, je reprends. Oui. Alors, en ces jours-là, dit le texte des apôtres, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux appelé Agabus, donc il y avait encore des prophètes, fit savoir, éclairé par l'Esprit Saint, qu'une grande famine allait régner dans le monde entier. Alors, quand c'est le monde entier, c'est toujours le monde romain. Et elle eut en effet lieu sous l'empereur Claude, nous dit le texte. Les disciples décidèrent alors qu'ils enverraient, selon les ressources de chacun, une contribution au service des frères qui habitaient la Judée. Alors, vous voyez que les quêtes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est, pourquoi vers la Judée ? Parce que la Judée était beaucoup plus pauvre que toutes les communautés, finalement. Il faut vous dire aussi le portrait du judaïsme de l'époque. En Judée, ce qu'on appelle Israël, on pense qu'il y avait environ 800 000 juifs. Mais dans les communautés juives de la diaspora, si on fait la somme de tous les juifs du bassin méditerranéen, il y avait 8 millions de juifs en diaspora. Ce qui veut dire qu'on était mieux en dehors d'Israël que dedans. On était beaucoup plus riches, parce que pourquoi les juifs se sont dispersés autour du bassin méditerranéen ? Pour le commerce. On vivait bien mieux en dehors d'Israël, et la Judée était restée une région pauvre. Il y avait le temple, mais ça consommait beaucoup aussi. Et donc l'envoi de cette contribution financière fut confié aux mains de Barnabé et de Paul. Alors, après, il y a de nouveau une espèce de d'imprécision. On ne sait pas très bien pourquoi on parle de ça au début de la vie de saint Paul, alors qu'en fait, la collecte arrivera assez tard à Jérusalem, il me semble. Mais bon, il faudra s'habituer, en lisant la vie de saint Paul, à avoir des doutes, des incertitudes, des écarts de date qui vont parfois de jusqu'à 10 ans d'imprécision. Donc, il faut s'y faire. Il faut bien se dire que la Bible, c'est peut-être triste de devoir vous dire cette chose-là, mais si je reviens au magistère de l'Église, c'est-à-dire la Commission biblique pontificale, dans son livre sur inspiration et vérité de l'Écriture sainte, le magistère dit « La Bible se soucie fort peu de décrire des faits objectifs ». Voilà, c'est un rappel quand même qu'il faut faire régulièrement. Les actes des apôtres, la vie de saint Paul et même son courrier, la précision objective n'est jamais leur problème. On a du mal, nous, on veut toujours, notre petit côté journaliste, où on veut toujours s'assurer que c'est bien vrai, aller creuser l'historicité. C'est pas leur souci. Leur souci, c'est comment ce qui vous est dit ou écrit va vous impressionner. Quel effet ça va vous faire? C'est pour ça que le texte pontifical continue en disant « Il faut recevoir comme vrai ces textes et par conséquent, ils deviennent vivifiants pour le lecteur qui veut bien le recevoir. » Donc, chers auditeurs, nous continuerons la prochaine fois en admettant ces imprécisions dans la vie de saint Paul et en essayant plutôt de rester sur l'axe « Mais qu'est-ce que ça veut me dire ?» Alors, au revoir, chers auditeurs, à très bientôt.